Merci Philippe, merci Vinciane. On va peut-être ouvrir, alors pas trop longtemps parce qu'il se fait tard, mais à la discussion et si vous avez des questions, des remarques, c'est à vous.
Oui, j'aurais une question pour Vinciane. Vous avez évoqué la notion d'agentivité non intentionnelle. Et je me rappelle dans l'entretien que vous avez eu avec Morisot, que vous aviez retenu cette notion en référence aux apports de Latour. J'aimerais savoir si avec Singh, vous continuez toujours à considérer que c'est une continuité de ce que Latour vous a invité à considérer dans une activité qui n'est pas intentionnelle. De quelle manière vous considérez que c'est un apport, c'est une bifurcation, c'est une intention d'ouvrir les choses autrement. Et avec Singh, justement, si on rentre dans le monde capitaliste avec la notion de plantation qu'elle évoque, s'il n'y a plus donc d'enchevêtrement, comment l'habitabilité peut être possible dans le nouveau monde qui est en train de se construire et de se développer?
Tu peux commencer? Non, je veux dire, c'est une question difficile, il faut que j'y réfléchisse. Parce que bon, c'est.
Je pense qu'il y a une équivoque sur la notion d'agence, d'agency, de puissance d'agir, en ce sens que beaucoup de gens, à la suite des philosophes analytiques comme Elisabeth Anscombe, considèrent que l'agence ne peut être que le produit d'une intentionnalité. Or, si on regarde dans l'histoire de la philosophie, si on commence avec Aristote, mais surtout avec celui qui le premier a vraiment développé ces notions d'agency, à savoir Hobbes, cette notion d'agency, d'agence, de puissance d'agir, elle est essentiellement fondée sur le rapport entre un agent et un patient. C'est-à-dire que si je trébuche sur une pierre, il y a une puissance d'agir de cette pierre. Parce que, et ça c'est Latour qui l'écrit, il y a puissance d'agir à partir du moment où il y a une différence. Et cette différence, c'est une différence dans l'action, c'est une différence dans un événement, c'est une différence dans un phénomène. Donc si je me réchauffe auprès du feu, il y a une puissance d'agir du feu parce que le feu introduit une différence par rapport à moi comme patient. Et donc, je pense qu'il faut être clair sur cette question et ne pas prendre la notion de puissance d'agir au sens le plus contemporain de la philosophie analytique, mais dans un sens plus classique, qui est celui de précisément tout ce qui introduit une différence dans un état et peut être considéré comme une puissance d'agir.
Merci Philippe qui clarifie. En fait, je me rends compte au moment où tu parles que je n'avais pas compris, en effet, le problème de la question. Et parce que pour moi, j'étais toujours évidemment dans l'agentivité, sens que tu viens de définir. Donc, je ne voyais pas. Pour moi, Latour, justement, et Singh sont plus ou moins sur le même diapason. Et puisque tu utilises le problème du feu, moi, je vais le faire dans une perspective jamesienne. Avoir une puissance d'agir, c'est être capable d'avoir des effets. Donc c'est ça la différence en fait. En fait, je dis la même chose que ce que Philippe dit. Et je pense que par exemple, une des jolies choses que nous a apporté Latour, c'est d'attirer notre attention sur la voie moyenne, qui est un très joli enchevêtrement de puissance d'agir à ce moment-là, et qui montre à quel point il n'y a pas besoin d'intentionnalité. Et enfin, la voie moyenne, selon Latour, mais je l'ai déjà expliqué 150 fois, je suis vraiment désolée, hein, je me répète, mais bon, c'est ce qu'on connaît le mieux finalement, c'est ce qu'on répète. C'est de dire ben, finalement quand est-ce qu'on utilise la syntaxe de la voie moyenne qui n'existe plus en français mais qu'on peut bricoler avec les moyens du bord, qui est donc la voie moyenne étant le fait que en français vous avez la voie passive et la voie active, j'agis ou je suis sujet de l'action d'un autre, je suis giflé ou je gifle, voilà, voie passive, voie active, enfin au contraire. C'est quand vous hésitez sur l'origine de l'action, on va utiliser des tournures bricolées de syntaxe que les Grecs avaient à leur disposition dans leur grammaire. Et par exemple, Latour dira, c'est quand on est suscité, quand on est convoqué, quand on est séduit, etc. Et j'ai trouvé, moi, en allant lire un article d'une linguiste spécialiste des littératures de la Grèce ancienne, et il y avait dans une note de bas de page, parce que c'est des articles en général où vous ne trouvez aucun exemple que vous puissiez comprendre, mais dans la note de bas de page, j'ai trouvé un exemple absolument magnifique, c'est « Je me brûle ». C'est parce que tu parles du feu. Ben, je me brûle. Vous êtes agent ou vous êtes patient? Qui a brûlé? Ben, c'est le feu. Pourtant, c'est vous qui vous êtes brûlé. Vous avez dû vous approcher la flamme, c'est vous qui le sentez. Ben, ça, je trouve que c'est un très bel exemple, très convaincant de ce que c'est que la voie moyenne. C'est le fait que vous ne puissiez pas, je vais dire, vous hésitez sur l'origine de l'action. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous choisissez l'origine de l'action, vous êtes renvoyé à l'autre. Et ça tourne. Et c'est indéterminé. Et vous pouvez à un moment prendre une décision, ça ce serait du James, vous pouvez décider, non c'est moi qui suis actif, mais vous savez que c'est votre décision et que ce n'est qu'une décision. Là je parle comme dans Anatomie d'une chute. Donc, j'ai adoré le plot parce qu'on est dans ce type d'indétermination là. Et donc voilà, donc pour moi les actants de la tour, si la tour d'ailleurs a utilisé actant plutôt qu'acteur, si mes souvenirs sont bons, c'est justement pour cette raison, c'était pour éviter d'associer l'agentivité à l'intentionnalité comme on le faisait d'habitude. Et donc par exemple les fourmis blanches qui ont attaqué toute la paperasserie de la bureaucratie impérialiste anglaise, étaient des actants, elles ne voulaient pas détruire la paperasserie, et pourtant elles ont eu des effets, et elles avaient de l'agentivité aussi dans la mesure où elles vivaient leurs projets propres, et ces projets propres se sont articulés, ou plutôt interférés dans les projets que les colonisateurs avaient à ce moment-là. Quant à la deuxième question, je me sens incapable d'y répondre, parce que je vais dire, on est bon, ben, les zones où il n'y a pas d'enchevêtrement possible, ben, voilà, c'est des zones justement qui disent bien ce qu'elle veut dire. Je vais dire ce qu'a fait la Jacinto, ben, c'est rendre toute vie impossible. Donc voilà, c'est plus des enchevêtrements, ça, c'est la prédation non volontaire, mais à l'état pur. Et c'est peut-être là où, en effet, il y a le problème avec ce qu'on appelle les invasives, c'est qu'elles rendent toute autre cohabitation impossible. Non pas parce qu'elles ont le projet de la rendre, mais parce que y a plus d'interdépendance, et parce qu'elles sont dotées d'une, parce que nos infrastructures les dotent d'une force et d'une puissance telle que n'ont ni besoin des autres, et c'est pas que la présence des autres les gêne, c'est qu'elles prennent toute la place. Mais il y a des choses intéressantes, parce que je me souviens chez Anne Natzing, à un moment donné, il y a une très jolie chose, elle dit que pour, en tout cas, elle parle des renouées. Est-ce que je crois que c'est des renouées du Japon dont elle parle, où elle dit une renouée du Japon peut remettre complètement le système juridique de la propriété privée en cause. Pourquoi? Parce que s'il y a une renouée à Londres ou dans cette région d'Angleterre, si vous essayez de vendre votre maison et qu'il y a une renouée du Japon dans le jardin, votre maison perd toute valeur, vous ne la vendrez jamais. Et donc une renouée du Japon est capable de complètement foutre en l'air quand même quelque chose qui est quand même au fond de commerce et de la propriété privée. Et donc même si on les trouve antipathiques, les renouées du Japon, il y a quelque chose quand même qu'on ne peut pas s'empêcher de trouver sympathique chez elles.
Bonsoir, merci pour vos présentations, c'était cool. En fait, je suis étudiant en master en anthropologie en deuxième année. Et du coup, là, c'est la période d'écriture de mémoire. Et je me posais des questions par rapport à l'anthropologie. Je travaille aussi sur un terrain un peu d'ailleurs. Et en fait, j'ai un peu l'impression que quand on parle généralement de nature-culture, on tombe toujours un peu dans un point de vue très occidental des choses. Et aussi, par exemple, quand on parle d'animisme, ou quand on essaye de mettre des mots... En fait, finalement, sur des choses qui ne nous traversent pas forcément, qui sont du coup un peu issues des sociétés marginales, est-ce qu'il n'y a pas un peu une forme de déni? Enfin, c'est une question, ce n'est pas forcément ce que je pense, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni et de retour dans une forme de colonialisme un peu moderne?
Alors, c'est une question complexe, parce qu'il est vrai que la plupart des concepts au moyen desquels nous désignons des réalités dans le monde, dans les langues européennes, en particulier nature et culture, sont des concepts qui sont nés en Europe, qui n'ont pas de traduction dans d'autres langues. Nature n'existe que comme terme que dans les langues européennes. Il n'a pas d'équivalent dans d'autres langues, mais c'est le cas aussi pour histoire, par exemple, ou c'est le cas pour art, pour économie, pour société même. Société, qui vient du latin aussi, comme la plupart de nos concepts, c'est societas, c'est une association. Et ça, la société, en tant qu'objet d'étude composé d'individus avec une circonscription définissable, c'est un concept assez tardif. Vous ne le trouvez pas même chez Rousseau. Et au fond, chez Comte et surtout chez Durkheim que ce concept prend toute sa vigueur. Or, ce concept ne correspond en aucune façon à la manière dont beaucoup de collectifs dans le monde conçoivent leur existence en tant que collectif humain ou collectif dans lequel il y a indissolublement mêlé des humains et des non-humains. Et donc, on a un problème, c'est que ces concepts qui sont nés de la philosophie des Lumières, donc de la façon dont l'Europe s'est objectivée à une certaine époque à l'intérieur d'un processus historique d'émancipation, ces concepts sont très liés, sont tous sauf transhistoriques, et sont très liés à une époque et à une partie du monde. Ces concepts, ils ont ensuite pris leur essor, ils sont devenus d'un usage courant dans la langue commune, et ils ont été ensuite traduits un peu partout dans le monde avec le colonialisme et la globalisation des échanges. Mais ils ne font pas justice à la manière dont beaucoup de populations se représentent leur propre réalité. Et donc il y a tout un travail qui est absolument indispensable de reformulation des concepts. C'est pour ça que je parlais d'ontologie, c'est pour ça qu'on parle de collectif, par exemple, parce que l'avantage du terme de collectif, c'est que ça désigne un agrégat d'éléments sans préjuger de la nature de ce qui les lie, ni de la nature de ces éléments. Autrement dit, alors que lorsque vous parlez de société, vous automatiquement préjuger du fait que c'est un ensemble d'humains qui s'est donné des conventions, qui partagent certaines règles, etc. Lorsque vous parlez de collectif, rien de tel n'est impliqué. Donc vous avez raison, on a un problème de terminologie qui est un problème conceptuel, c'est-à-dire que ces termes renvoient à une manière d'organiser la structure du réel, qui est celle de la pensée occidentale, et tout particulièrement à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, donc du naturalisme, qui ne correspond pas à la façon dont d'autres populations organisent le réel. Et l'ethnologie, d'une certaine façon, a contribué à plaquer ces concepts sur des réalités qui ne s'y prêtaient pas. Alors, il y a un travail important en ce moment de remise en question en anthropologie de ces catégories, mais qui passe par une réforme élémentaire du vocabulaire au moyen duquel nous appelons les choses. Si je peux me permettre de revenir sur la question de l'histoire, lorsque Lévi-Strauss distingue les sociétés froides des sociétés chaudes, il ne distingue pas les sociétés avec histoire ou sans histoire du fait qu'il n'y aurait pas d'événements dans les sociétés sans histoire et qu'il y en aurait dans les sociétés avec histoire. Il y a de l'événement partout. Simplement, l'événement n'est pas traité de la même façon. Dans les sociétés sans histoire, dans les sociétés froides, le caractère transformateur de l'événement est annihilé en général par des opérations rituelles, et ça ne veut pas dire que ces sociétés ne sont pas traversées par des mouvements, par des transformations, par des évolutions, etc. C'est simplement qu'il n'y a pas un mode Il n'y a pas un régime de temporalité qui permet de traiter ces transformations, ces événements à l'intérieur d'un cycle qu'on pourrait appeler un cycle historique. Donc lorsqu'on lui a reproché de parler de société sans histoire, c'était précisément parce que on avait tendance à projeter sur tout collectif humain un même régime de temporalité historique que celui qui nous est familier et que celui qui a, au fond, fait de l'Europe un sujet collectif au cours des derniers siècles. Mais c'est un chantier considérable, en effet.
Oui, bonsoir. Les gilets jaunes nous ont montré que c'était plus très habitable. Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes sont des marginaux ?
Ça dépend. C'est pas une réponse. On peut pas donner une réponse facile parce que on a regroupé sous le terme gilets jaunes, et je crois même que les gilets jaunes eux-mêmes se sont regroupés sous un terme qui fédérait en fait des formes extrêmement diverses de ressentir la marginalisation. Alors, je sais que j'ai employé des expressions comme les populations autochtones qui sont aussi vagues et mal définies que les gilets jaunes, d'une certaine façon. Mais quand je parle de populations autochtones, c'est pour désigner des populations que j'appellerais extra-modernes, c'est-à-dire qui sont restées en partie à l'écart du mouvement de normalisation de la modernité, du naturalisme en particulier, et qui, lorsqu'ils ont été confrontés à ce mouvement, ont inventé des réponses intéressantes pour essayer de se présenter au moderne d'une façon inattendue, si je puis dire. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec les gilets jaunes, je ne pense pas. Alors, c'est une forme d'inhabitabilité. Oui, je pense que c'est une forme d'une. Alors, je ne vais pas faire la sociologie du mouvement, mais une partie du mouvement des gilets jaunes, effectivement, s'est déclenchée dans les zones interstitielles et périphériques. Et donc, l'inhabitabilité de ces zones-là est un effet, effectivement, caractéristique, me semble-t-il, du développement tardif du capitalisme, c'est-à-dire ces espaces qui ont perdu les réseaux de sociabilité ordinaires. C'est un autre sens de l'inhabitabilité, c'est l'inhabitabilité sociale, sans doute, qui est aussi un problème plus général.
Personnellement, j'ai énormément de difficultés à parler des gilets jaunes, d'abord parce que j'étais en Belgique, moi, la plupart du temps, à ce moment-là, où j'enseignais, et que le phénomène ne s'est pas vraiment... Il y a eu un peu, mais pas de manière aussi. Et puis, je pense qu'on est tous mal à l'aise de parler des gilets jaunes, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est sorti très vite dans ce que les gilets jaunes ont dit, c'est qu'on ne veut pas qu'on parle à notre place. Personne ne pouvait être reconnu comme le représentant des gilets jaunes. Moi, ça me met dans. Je vais dire, moi qui parle déjà à la place des animaux, qui parle à la place des morts, etc., on me le reproche déjà assez, quoi. Alors je dis, si en plus on tombe sur quelqu'un qui dit, vous le ferez pas, là vous pouvez vraiment pas, les animaux ils nous le disent pas, quoi. Les morts non plus. Enfin. Ça pourrait, mais bon. Et donc moi là, je suis vraiment. Je suis en difficulté et on l'est tous. Et en même temps, mais c'est un paradoxe parce que. Et en même temps, il faut qu'on en parle. Il ne faut pas qu'on oublie. Et donc, comment est-ce que... Moi, je ne sais pas comment... Et là, je le dis vraiment, je ne sais pas comment on parle à ce moment-là de ce qui considère... Je pensais au moment où tu parlais de... Voilà. Le moment où tu en parlais, tu sais, à propos de marginal, je me disais, est-ce que les termes de le contraste que Deleuze faisait entre minorité et majoritaire, est-ce que c'est pas aussi selon ce contraste-là? Et puis je me disais, non, mais je peux pas le dire parce que c'est pas à moi de le dire. Et donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas oublier, pour continuer à en parler sans parler à leur place? Et c'est là où je reste un peu très bègue. Voilà, je suis très bègue sur cette question.
Bonsoir et merci pour votre conférence. Moi, je voudrais poser une question assez terre-à-terre. Dans les années 50, quand on ne faisait pas partie de la bonne société, on n'avait pas grand-chose. Et on aurait bien voulu en avoir deux fois plus. Maintenant, on a 10 fois plus, mais on voudrait encore plus. Je voudrais savoir si, justement, dans les peuples, les civilisations, les cultures que vous avez connues, il y a des endroits où cette obsession du toujours plus n'existe pas.
Oui, la réponse est simple. Oui, bien sûr. Et ce qui, je disais tout à l'heure que le retour du terrain est très dur. Et le retour du terrain est très dur parce qu'on s'aperçoit tout d'un coup à quel point nous sommes plongés dans une civilisation de la marchandise. Avec un excès de marchandises. Et quand j'étais jeune, avant de partir sur le terrain, j'avais lu Marx, j'avais essayé de comprendre ce que c'était que le fétichisme de la marchandise. Je crois que j'avais à peu près compris, mais c'était resté une abstraction. Et lorsque je suis revenu, ça m'a sauté au visage avec une brutalité considérable, c'est-à-dire que les rapports entre les personnes passent au premier chef par des rapports entre des marchandises. Et l'une des choses très positives du terrain, je pense que Nastassia sera d'accord avec moi, c'est qu'on y apprend assez rapidement la sobriété, parce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de très peu de choses pour mener une vie agréable. On a besoin d'être protégé de la pluie et du soleil pour pouvoir dormir. Et être protégé de la pluie. On a besoin de manger à intervalles réguliers. On a besoin d'eau pour se laver. Et en dehors de ça, c'est des nécessités de base, au fond, dont on s'aperçoit qu'elles vous satisfont si on les obtient de façon régulière et normale, complètement. Donc, oui, c'est l'apprentissage de la sobriété. Je ne vais pas recommander d'aller emmerder les hatchoirs pour faire cet apprentissage, mais je pense que chacun d'entre nous peut le faire au quotidien. En tout cas, oui, l'obsession pour l'accumulation de la marchandise, c'est quelque chose qui est très caractéristique du capitalisme, et notamment du capitalisme tardif. Et qui vient notamment sur le fait que l'accumulation du capital se fait par la multiplication des marchandises qui doivent être vendues et dont on doit susciter le désir chez les consommateurs, tout simplement. Donc une forme de résistance à cela, c'est de résister à ce type de consommation. Quand je parlais de la polyvalence, je suis incapable de faire un téléphone, de fabriquer un téléphone de dernière génération ou d'un écran plat, mais je peux m'en passer très bien. La suspension de la consommation est une chose importante. Et d'ailleurs, certaines des remarques de Trump sont intéressantes parce que les oligarques en général sont hystériques lorsqu'on parle de suspension de la consommation, parce qu'évidemment, ça met en péril la totalité de l'édifice.
Peut-être ajouter une toute petite chose sur le pourquoi plutôt moins que plus chez beaucoup de collectifs autochtones. Chez les Évennes, une des questions centrales pour entrer en dialogue avec les êtres, entités qui composent un même milieu, c'est la question du rêve. Le problème, c'est que pour bien rêver, si vous avez trop autour de vous, c'est-à-dire si votre yourte, si votre cabane est encombrée et si les murs sont trop épais, il y a littéralement une question d'épaisseur en fait, de quelle est l'épaisseur du tissu ou du matériau qui vous sépare de ce CEX qui vivent à l'extérieur, ça ne marche pas. Donc généralement, si on veut se mettre en capacité de rêver, déjà même la cabane, déjà les murs en bois, c'est trop. Donc généralement, soit on part dormir sans rien à la belle étoile si c'est possible, soit vraiment une toile de tente très fine pour être tout juste protégé des intempéries, mais néanmoins être ouvrir des brèches à l'intérieur de soi qui permettent de par porosité laisser passer ces formes d'altérité et donc de dialoguer pendant la nuit. Voilà, juste un petit exemple de pourquoi plutôt moins.
Oui, bonjour, c'est plutôt une question pour Viviane. Je voudrais savoir si que les animaux ne sont pas rentrés dans l'histoire, ce que je partage, mais je me demandais si les virus et les bactéries ne sont pas quand même rentrés dans l'histoire. Bon, il y a l'histoire du Covid il n'y a pas longtemps, mais l'histoire des épidémies est quand même un fait historique qui a complètement construit un peu notre histoire. Donc je voulais savoir quel était votre point de vue là-dessus.
En fait, vous avez parfaitement raison. Mais je vais dire, avant que les historiens ne commencent à penser que c'est des êtres qui changeaient vraiment le cours de l'histoire, je vais dire, la peste, par exemple, on la voit toujours du point de vue des humains, hein, du point de vue de ce que les humains font, etc. Bien sûr, on sait quels sont les agents pathogènes aujourd'hui. Voilà, et donc c'est un peu difficile d'ailleurs d'essayer d'imaginer, de raconter. Voilà, c'est ce qu'il faudrait. Voilà, ce que les historiens souhaitent faire aujourd'hui, c'est raconter l'histoire du point de vue, pas d'un point de vue subjectif, bien qu'on resubjective, hein, mais parce que, évidemment, pas ce que les virus, les microbes, les bactéries ou les champignons pensent, évidemment, mais simplement, mais de le reconnaître d'une certaine manière, d'avoir été des êtres qui faisaient basculer l'histoire des humains, où les humains n'avaient plus la totalité de la prise sur ce qui leur arrivait. Alors, évidemment, on pouvait le faire, mais ce qui m'intéresse dans ma recherche à moi, c'est pourquoi aujourd'hui certains historiens décident de le faire comme ça, alors qu'on ne le faisait pas auparavant. Que par exemple, des historiens comme on en trouvait dans la génération précédente, qui était par exemple Michel Pastoureau, on étudiait le corbeau dans les représentations que les gens s'en faisaient, la peste dans les représentations que les gens s'en faisaient. Mais chercher à focaliser la caméra en se disant mais qu'est-ce que ces êtres faisaient vraiment, c'est plutôt les biologistes qui auraient fait, voilà, les biologistes allaient vous expliquer le fonctionnement. La peste, c'est une bactérie ou c'est un virus? C'est une bactérie. Bon, les biologistes vont prendre en charge le fonctionnement de la bactérie qui va provoquer la peste. Les historiens vont prendre en charge les représentations que les gens se font de la peste. D'autant plus qu'on ne savait pas que c'était une bactérie. Mais voilà. Donc, c'est comme si les domaines étaient séparés. Et ce que je vois, moi, chez les historiens aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire, c'est de brouiller complètement la frontière entre biologie et histoire, et on ne sait plus s'il parle du point de vue de la biologie ou du point de vue de l'histoire, parce qu'il n'y a plus, je vais dire, une fois qu'on commence comme ça, il me semble qu'on commence à rompre avec le naturalisme en ne permettant plus de dire ceci est de la biologie ou ceci est de l'histoire. Voilà, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi de dire que c'est peut-être un petit pas de rupture, de brouillage des codes du naturalisme, que justement de faire de l'histoire du point de vue de la bactérie, non pas d'un point de vue subjectif au sens d'une perception, etc., mais de se dire, tiens, mais qu'est-ce que ces êtres ont fait dans l'histoire, et de ne plus le raconter du point de vue de la biologie. Voilà.
Oui, d'autant que la plupart des épidémies récentes sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles ont été... les vecteurs sont des espèces animales, et qu'elles, avec un saut d'espèces, entre plusieurs espèces, et bien sûr, ensuite, aux humains. Autrement dit... C'est un monde beaucoup plus complexe encore que celui des bacilles. C'est le système général des interrelations entre différentes espèces et les humains dans différentes parties du monde à différentes périodes. Donc c'est une historicisation complète du processus, puisque on a interprété le Covid, on ne sait toujours pas encore absolument la source, mais comme étant la transmission du virus de chauve-souris à d'autres porteurs animaux et ensuite aux humains. Donc, et les effets de bouleversement des écosystèmes qui ont rendu des populations, notamment de chauve-souris, qui étaient relativement isolées à un certain moment, beaucoup plus proches des humains, ont eu des effets dans ces phénomènes de saut d'espèces. Donc il y a vraiment une dimension historique fondamentale dans cette affaire. Je voudrais revenir sur une question d'histoire toujours. J'en parlais avec Baptiste Morisot l'autre jour. Je lui disais que l'une des choses que j'avais trouvées rassurantes chez les Atchouars, c'est d'échapper à la transcendance, c'est-à-dire les populations comme les Atchouars vivent dans l'immanence, c'est-à-dire qu'on est environné en permanence de personnes végétales, animales, d'esprits avec lesquels on interagit au quotidien. Il n'y a pas un élément supérieur et extérieur qui vient, soit un dieu, soit la société, comme pour revenir à ce qu'on disait l'autre tout à l'heure sur la société, comme un élément transcendant. Et on évoquait l'idée que le fait de se penser comme étant une étape dans un processus très ancien et très complexe d'évolution biologique permet d'une certaine façon d'échapper à la téléologie et à la transcendance aussi, c'est-à-dire en trouvant des racines en tant qu'espèce et en tant qu'individu dans un processus dans une série d'accidents qui se sont produits au fil du temps, avec des mutations génétiques, des formes d'adaptation, des choses comme ça, qui fait que nous sommes là maintenant. Lorsque on accusait Darwin d'athéisme, on avait alors qu'il était chrétien néanmoins, on avait raison, parce qu'il n'y avait pas de meilleur moyen pour favoriser l'immanence que la théorie de l'évolution.
À vous écouter, à voir un peu toute l'évolution que vous avez faite ce soir, est-ce qu'une des solutions, est-ce qu'on ne devrait pas être végétarien ? Est-ce que ça ne replacerait pas notre place à notre juste hauteur ? Est-ce qu'on a le droit de manger les autres ?
Moi, comme philosophe, je trouve que les philosophes qui font de la morale, c'est parfois tellement mal fait, et tellement vilain, c'est tellement vilain, que je ne me permets pas de dire qu'on doit ou etc. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Pour moi, c'est une faute de goût. Donc je ne peux pas vous répondre à cette question comme philosophe. En revanche, je peux vous reparler de quelque chose que certains d'entre vous connaissent, et qui est l'histoire de Valplumoud, et qui me parlait d'une très grande sagesse. Et le mot sagesse, ça va, en plus, c'est génial. C'est une belle coïncidence que je puisse dire de Valplumoud qu'elle a une immense sagesse, parce qu'elle-même proposait de remplacer le terme intelligence chez les animaux par sagesse, en disant justement sortons-le de notre boîte crânienne, quoi. Enfin, sortons-le de la sphère dans laquelle nous l'avons mis. Il y a des sagesses animales, il y a la sagesse du vol, etc. Donc, alors, la sagesse de Valplumoud, c'est. Alors c'est une histoire que certains d'entre vous connaissent, désolé, elle le raconte dans un livre absolument passionnant qui s'appelle Dans l'œil du crocodile. Elle descend dans une barque. Elle descend la East Alligator River en Australie et elle se fait attaquer par un crocodile. Donc elle est anthropologue et je précise pourquoi elle explorait la région. Elle a failli être tuée. Il a trois fois, il l'a plongée dans l'eau, il l'a mordue méchamment, sérieusement. Et elle a réussi vraiment à en échapper par miracle. Et elle a réussi à ramper. Et puis heureusement, il y a des gens qui sont passés sur le chemin où elle risquait d'agoniser. Et sa première réaction est d'être absolument scandalisée. Comment est-ce que ce crocodile a bien pu oser considérer que j'étais de la viande ? Et c'est ça le scandale. Et elle va partir sur toute une réflexion sur son propre scandale. Mais pourquoi est-ce que je suis... Qu'est-ce que ça signifie le fait que je suis tellement scandalisée ? Si ce n'est le fait que nous avons considéré que tous les êtres étaient de la viande, sauf nous. Et que donc, nous, tout peut être de la viande pour nous, mais nous ne pouvons pas être de la viande, nous ne pouvons être de la viande pour personne. Et elle dit que, par exemple, dans les pays occidentaux, c'était en plus tellement bien renforcé, c'est que l'idée, l'exceptionnalisme humain conduisant à l'idée que les prédateurs étaient l'ennemi absolu, nos prédateurs, on les a éliminés, on les a éradiqués. Ce qui fait qu'on n'est même plus confronté aux prédateurs. Donc même que l'idée qu'on pourrait être mangé ne nous effleure même plus. Alors qu'il y a des tas de cultures où le fait d'être mangé fait partie d'un ordre non souhaitable, mais possible des choses. Oui, en plus, voilà. Alors que le fait le fait de se faire manger par des vautours quand on est mort fait aussi partie des choses là très souhaitables, enfin pour certains, parce que c'est ce qui va permettre de libérer votre âme en dégageant au plus vite le corps. Bref. Et donc moi j'ai envie d'adhérer plutôt, non pas de dire il faut, nous devons, nous devrions, etc. C'est plutôt de dire la sagesse de Valplumut, c'est réfléchissons à et ça. Je pense que c'est une réponse qui fait le même travail opératoire que ce que Philippe fait en disant qu'est-ce qui se passe si on resubjective. Ben Philippe, il se dit, cherchons les conditions où on peut commencer à faire un levier. On ne battra pas le capitalisme comme ça. Cherchons des leviers qui vont le fragiliser, qui vont faire qu'à un moment donné, les gens diront, ah ben non, on peut plus. Là, on participe plus, c'est plus possible. Bon, là, c'est vraiment trop. C'est ça, en fait. Il me semble que c'est un des leviers opérationnels. Ben, Valplumut, elle me donne un levier. Pourquoi elle dit, en fait, le problème, c'est pas que nous soyons ou pas de la viande, c'est que les animaux sont de la viande et rien que de la viande. Et moi, je veux bien être de la viande, mais pas rien que de la viande. Et donc, apprenons à être dans un rapport avec les autres vivants, où bien sûr, ils peuvent nous nourrir, mais ils ne sont pas que de la viande. Et là, ça change le rapport. Et donc, ça veut dire que moi, à ce moment-là, je trouve que s'il y a des éleveurs dans la salle, ben, on pourrait commencer à parler de faire comment est-ce que vous faites, et tout de suite des éleveurs, parce que j'en ai interrogé quand même un peu avec Jocelyne Pourcher, parce que j'ai travaillé avec Michel Meuret, ben, il me dirait, mais bien sûr que nos animaux, ce n'est pas de la viande, même si nous savons qu'à un moment donné, ils vont nous nourrir, ils vont permettre, comme dirait Philippe Roucan, de payer les études de ma fille à Toulouse. Et d'ailleurs, il a mis des photos des vaches dans le studio que sa fille loue à Toulouse en disant « Je veux que tu te souviennes... j'ai dit quelque chose d'idiot ? Non ! Je veux que tu te souviennes ce qui te paye tes études. » C'est génial, quoi. Bon, voilà. Et ben, ça, c'est ne pas être que de la viande. Et si vous faites ça, pourquoi est-ce que c'est un levier opérationnel ? Moi, j'avais imaginé un jour, on me disait, qu'est-ce que vous pourriez faire pour empêcher l'élevage industriel ? J'avais dit, eh ben, que les conditions pour faire de l'assimilation artificielle soient aussi difficiles pour les éleveurs de vaches que pour les humains. Qu'il faut remplir de la paperasserie, de la paperasserie, de la paperasserie, qu'il faut passer des tests psychologiques, enfin, plein de trucs. Hein ? Eh ben, à ce moment-là, à mon avis, l'élevage industriel, ce sera beaucoup plus difficile. Un petit point de levier. Voilà, non, hein ? Ben, pensez que les animaux, c'est de la viande, mais pas que de la viande. Vous démoralisez. C'est très important de démoraliser la question et vous commencez à agiter des petits leviers qui sont des leviers qui vont commencer à bouger les choses. Voilà.
Moi, j'avais une question, peut-être pour continuer, dépasser la séparation entre nature et culture. Et en fait, je me demandais, est-ce que la séparation qu'on continue à faire aussi entre vivant et non vivant, c'est pas un prolongement aussi de cette mise à distance? Et là, j'ai l'impression que la conversation a beaucoup tourné aujourd'hui autour des autres vivants, autres qu'humains, mais peut-être pas tant autour de ce qu'on appelle, peut-être ce qui a été cité au début comme élément abiotique, mais en fait, quelles sont aussi les formes d'attachement à ces éléments-là et aussi les frontières. Moi, je travaille plutôt sur la terre et le sol, et il y a souvent cette question, est-ce que le sol est vivant ? Ou est-ce que le sol est un milieu de vie ? Et voilà, je me demandais un peu si c'est pas quelque chose qu'on, qu'on aurait aussi à chercher à dépasser cette séparation entre vivant et non-vivant. Est-ce qu'on ne fait pas trop de place au vivant aujourd'hui dans cette question d'habitabilité ou, enfin, voilà.
Je dis peut-être juste un petit mot. Pour moi, c'est une très bonne question. C'est la question. En tout cas, c'est une question qui est vraiment très pertinente pour notre problème d'habitabilité. C'est ce chantier dont j'ai parlé au début et que j'ai ouvert au Kamtchatka il y a 5-6 ans autour de l'ethnométaphysique des éléments. C'était vraiment cette idée-là, en fait. C'était de se dire, tiens, mais comment ça se fait que au sein des collectifs animistes avec lesquels on travaille, on a documenté des parentés importantes et profondes avec des animaux, des plantes généralement, mais plus rarement avec la question de ce qu'on appelle les milieux abiotiques, ou que moi je préfère appeler les puissances élémentaires. Et c'est pas que ce genre de travail n'existe pas, c'est juste qu'il est plus rare. Encore une fois, il y a des exemples, mais pas dans des collectifs animistes, plutôt dans des collectifs que, après Philippe, on peut discuter, que Philippe appellerait totémistes. C'est tout le travail de Barbara Glosewski, notamment. Je vous renvoie à son dernier livre, Réveiller les esprits de la terre. Mais néanmoins, voilà, moi, ma question, c'était pourquoi dans des collectifs qui sont a priori animistes, on peut quand même déceler des formes de dialogue avec ces puissances élémentaires qui sont des agents, des agentivités, mais qui ne sont néanmoins pas des personnes. Et il y a quand même des rituels pour dialoguer avec elles. Et qu'est-ce qu'on fait comment on essaie de suivre leurs traces pour penser ce que peuvent être ces éléments autrement que nécessairement recapturés en tant que milieu abiotique ou ressources. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le problème avec ces éléments, c'est qu'ils sont beaucoup plus facilement ressourcifiables, entre guillemets, en tout cas à l'heure actuelle, avec tous les travaux qui ont été menés depuis plusieurs années, que les animaux et les plantes. C'est-à-dire que c'est immédiatement beaucoup plus... C'est plus évident... C'est plus évident de les considérer comme des ressources, parce que la question de l'agentivité, elle est plus compliquée. Et par ailleurs, souvent on m'a dit, lorsque voilà, j'essaie d'étendre la question animiste à ces milieux-là, oui, mais là, c'est-à-dire, bon, c'était OK pour les plantes, les animaux, d'accord, mais là, par contre, si vous allez jusque-là, on bascule dans la croyance. C'est-à-dire qu'il y a une limite, en fait. Il y a une limite jusqu'à laquelle on peut aller, et la limite, c'est les éléments abiotiques, les milieux abiotiques. Néanmoins, moi, je continue de prendre tout à fait au sérieux la proposition de Bruno Latour qui disait « est moderne celui qui croit que les autres croient ». Et donc, s'il y a tout un tas de collectifs qui continuent de s'adresser à ces éléments autrement que comme des milieux abiotiques ou des ressources, c'est qu'il y a nécessairement une piste à suivre. Et c'est aussi cette piste-là que je vous propose qu'on suive collectivement avec ces ateliers dont peut-être Katia va dire un mot après, qu'on aimerait organiser ici sur le territoire des Grands Causses. Que de réfléchir collectivement à ce que ça pourrait être depuis, pas seulement depuis ce que disent les collectifs autochtones, mais aussi depuis des formes d'attachement dont on peut remonter le fil et la mémoire ici même.
Je profiterai du fait que la tour est évoquée pour dire, mais en fait, quand on dit que la Terre est vivante, ou par exemple, la Terre est vivante, dans quel régime de vérité est-ce qu'on parle ? Quand on dit que quelque chose est vivant, on est dans quel mode d'existence et dans quel régime de... Est-ce qu'on est dans le mode de... Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans... Je pense que ça vaut la peine de suivre Bruno et ses modes d'existence ici. Est-ce qu'on est dans le régime rêve ? qui permet de déterminer que quelque chose est vivant ou que quelque chose ne l'est pas. Ben, quelle serait la définition si on est dans un rêve, selon un scientifique, ça ferait quoi comme différence? Par exemple, j'ai entendu une très jolie définition d'Isabelle Stengers dans l'entretien qu'on avait mené. C'est, elle dit, la tornade est sensible, mais elle est indifférente. Bon, ça, c'est une définition, c'est une prise, quoi. De reconnaître à tout être la sensibilité. La tornade est sensible, en effet, elle est sensible au conditions. La Terre est hypersensible, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est indifférente ou non? Mais c'est quoi alors la Terre? Parce qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on peut changer. Est-ce que c'est avec les vers de terre? Puisqu'une fois qu'on commence à mettre la Terre dans ses attachements, mais est-ce que la Terre, c'est une abstraction, finalement, si elle n'est pas avec les vers de terre? Ou alors, c'est une Terre morte? Ah, mais si elle est morte. Et là, on peut commencer à se dire, et chaque fois, se poser la question, quelle prise ça nous donne? Et c'est pour ça que je suis tout à fait... j'essaye d'être à la suite de ta réponse. De se dire, tiens, quelle prise ça nous donne? Et donc, pour évacuer la question de la croyance, de dire là-bas et ici, ben, ici aussi, quelle prise ça nous donne? Et est-ce qu'on est dans un rêve? Bon, ben, alors, c'est un type. Est-ce qu'on est plutôt alors dans la métamorphose? Est-ce qu'on est dans la fiction? Voilà, enfin, et peut-être qu'on devrait inventer d'autres modes, d'autres régimes de vérité, enfin, d'autres modes d'existence, et donc d'autres régimes de véridiction pour ce genre de choses. Et ça aussi, je pense que c'était intéressant à explorer.
Moi, je suis d'accord avec votre remarque. J'ai le sentiment que je suis en partie responsable du fait que les gens utilisent maintenant le mot nature avec beaucoup de précautions, avec des pincettes, et qu'une façon d'échapper aux difficultés de l'emploi de ce concept, c'est de parler de vivant. Et donc, c'était devenu un peu... je ne parle pas chez les gens dans ce métier intellectuellement de réfléchir à ces questions-là, mais disons dans les médias, choses comme ça, la nature peu à peu s'efface et est remplacée par le vivant. Donc c'est un euphémisme, c'est une euphémisation de la nature d'une certaine façon. Et je suis d'accord que ce n'est pas complètement satisfaisant, parce que ce à quoi on fait référence lorsqu'on parle de l'habitabilité de la Terre, c'est d'un ensemble, c'est des milieux, c'est-à-dire c'est à la fois un socle abiotique et puis l'ensemble des formes de vie qui l'habitent. Donc ce n'est pas uniquement du vivant, c'est du vivant au sens où pour que le vivant vive, il faut des conditions qui sont quelquefois extérieures au vivant, il faut des conditions... climatique, géologique, chimique, biochimique, etc. Voilà.
Je veux juste refaire une petite remarque. Je pense que c'est pour ça que je vous ai un petit peu, je m'en excuse au début, exposé à une batterie de questions que je vous posais directement sur l'habitabilité, qui sont les questions que je me pose. C'est parce que je pense que ce terme, c'est en train de devenir un buzzword, littéralement, comme l'est devenu vivant. Et que du coup, c'est déjà le cas, mais il va y avoir des processus d'instrumentalisation, de réinstrumentalisation, de médiation, etc., ce qui est normal. Néanmoins, on est au début de la réutilisation de ce concept, et je pense que c'est vraiment le moment de se poser la question de c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, qu'est-ce qu'on décide collectivement de mettre à l'intérieur, et si jamais à un moment donné, c'est-à-dire que ce terme n'est plus le bon pour désigner ce à quoi nous tenons. Il faut se donner les moyens de décider d'en changer, tout simplement. Voilà, pour pas que ça devienne juste, encore une fois, un terme qui nous permet pas de penser plus loin. C'est un peu toujours le problème des concepts, c'est que c'est très important pour mettre de l'ordre dans le flux de l'expérience, et néanmoins, to a certain point, c'est enfermant. Voilà, et ça fait partie aussi de notre travail, que de sans cesse laisser les concepts entrouverts pour ne pas risquer la dévitalisation de nos pensées.
Oui, merci pour tout ça. Moi, ce que j'en retiens, c'est que l'anthropologie, c'est vachement politique. Je découvre un peu, là, du coup. Et vous avez parlé, donc, dans les... Comment on va faire pour s'en sortir de cette mauvaise passe, enfin, de ces mêmes désespérances qui se passent aujourd'hui, tous ces bruits de bottes et puis cette pollution de plus en plus importante de la nature. ou du vivant. Moi, j'ai été éleveur pendant toute ma vie, donc l'histoire de la viande et tout ça, ça m'interpelle aussi. Mais si on supprime déjà l'élevage industriel, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas sur la souffrance animale. Et il faut savoir que les éleveurs, effectivement, Vinciane, vous l'avez dit, ils aiment leurs animaux. Et quand je perdais une brebis, ça m'est arrivé de presque pleurer, d'être très, très mal, quoi. Et pourtant, je les envoyais aussi à l'abattoir à un certain moment. Donc voilà, tout ça, c'est très complexe. Et on ne peut pas rayer d'un coup de main par un coup d'antispécisme. Non, on ne mange plus de viande, quoi. Les lions mangent de la viande, les loups mangent de la viande. Voilà, enfin, on est aussi dans le vivant aussi, à ce niveau-là. Et vous avez parlé aussi de Notre-Dame-des-Landes. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que voilà, il y a des gens qui luttent et qui ont gagné des luttes. Ici, on en a un exemple aussi avec notre fameux plateau au-dessus. Et qui essayent aussi d'aller encore plus loin. Et Notre-Dame-les-Landes est partie à un mouvement qui s'appelle les soulèvements de la terre et qui porte très, très bien son nom, moi, je trouve, et qui est très efficace pour, par sa radicalité, mettre en avant le problème, justement, de l'inhabitabilité de notre terre. Si on continue comme ça, en mettant l'accent sur Sainte-Soline, sur d'autres lieux, en allant occuper les vignes de M. Arnaud, etc. Et donc, ce genre de mouvement-là, chez les jeunes, ça marche vachement bien. Moi, j'étais aussi à Sainte-Soline et j'ai vu que les gens de mon âge n'en étaient pas les plus nombreux. Et ça, ça fait vachement plaisir. Ça veut dire que la jeunesse, elle se lève et elle ne va pas se laisser faire. Et sur la 69, on voit aussi qu'on est en train de gagner. Enfin, on espère. En tout cas, on a gagné une grosse bataille juridique. Et voilà, enfin moi je pense qu'on ne peut pas rester assis sur notre chaise et attendre que ça se passe et à philosopher aussi, même si j'aime bien la philosophie. Mais il faut aussi lutter et il faut aussi rejoindre ces genres de mouvements-là. Les soulèvements de la terre, ils disent aussi nous sommes la nature qui se défend. Même si le mot nature, effectivement, j'ai entendu ce que vous disiez, M. Descola. Voilà, nous sommes la nature qui se défend, ça veut dire on n'est pas les hommes qui défendent la nature, on est la nature. On en fait partie. Merci en tout cas, j'ai appris pas mal et j'ai bien vibré à tout ce que vous dites. Merci.
Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question si vous le souhaitez, mais peut-être qu'on peut aussi clôturer cette soirée. Il est tard et donc un grand merci Philippe, Nastassia, Vinciane pour... tout ce que vous avez partagé pour ces échanges. Merci à vous tous et à vous toutes d'être venus. Donc, comme on le disait en début de soirée, comme l'a dit Nastassia, on va poursuivre ces échanges sous une forme un peu expérimentale qui reste aussi à définir en fonction de ce qui émergera de ces rencontres dans lesquelles on pourra essayer d'exprimer ce à quoi nous tenons. C'est quoi cette habitabilité ici sur les Grands Causses? C'est quoi nos attachements à ce territoire, qui que l'on soit et quoi que l'on y fasse? Et donc ça, il faut qu'on le mette en discussion. Et donc c'est ce qu'on vous propose. Alors ça va commencer demain, mais il y aura d'autres rendez-vous pour essayer de réfléchir à ça. Et puis on essaiera de voir si on peut faire émerger des axes un peu plus forts et structurants pour collectivement les mettre en partage aussi avec des regards de chercheurs et des expériences qui viennent d'ailleurs. Voilà, mais ça, c'est des choses qui restent à faire et à construire et à inventer aussi. Soyez attentifs à tout ça. On communiquera bien sûr sur la suite de ce travail, de ce processus. Simplement pour vous dire que Clément de la librairie Comme des livres est juste là de ce côté et il a plein de bouquins de Vinciane, de Philippe, de Nastassia, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous le souhaitez. Ici, il y a une petite table avec des verres et un petit peu de vin offert par le bistrot des ethnologues pour celles et ceux qui ont envie de boire un coup et de poursuivre les discussions. Voilà, un grand merci. À bientôt.